20 minutes avant la fin du monde. Le podcast d'autodéfense écologique.
Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous demande votre attention pour des informations qui viennent de nous parvenir, priorité au direct, et qui sont de la plus haute importance. Je suis assez ému de vous lire ces nouvelles que je reçois comme vous à l'instant. J'ai sous les yeux quelques lignes qui marqueront l'histoire, un communiqué officiel du gouvernement autoproclamé de 20 minutes avant la fin du monde, je vous les lis. À compter de ce jour et pour une durée illimitée, nous suspendons les fonctions du gouvernement et les prochaines élections. Nous réunirons les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Lorsque la situation sociale et écologique le permettra, nous organiserons de nouvelles élections pour que le peuple français puisse choisir librement ses représentants parmi une liste de candidats et candidates autorisés à concourir. D'ici là, nous exigeons de vous patience et confiance et vous ordonnons d'obéir à vos seuls représentants légaux et légitimes, celle qui est ministre de la langue et des arts bas carbone, Sonia.
Hey, c'est moi.
Celui qui est ministre d'État de la propagande d'État et du journalisme libre.
C'est moi.
Eh oui, Rémi, tu t'es reconnu. Celle qui occupe le ministère stratégique et convoité de la teuf écolo, fusionné avec le ministère de l'Intérieur, Sarah.
Eh oui, c'est moi.
C'est double casquette quand même. Hein.
Ouais, ça rigole moins, ça dépend des moments.
Ouais, exactement, bah, tu nous préviendras. Et celui qui a refusé d'être ministre et qui sera bientôt en prison par conséquent, l'opposant de l'Intérieur, cofondateur de Fracas Média, Philippe Vionduri.
C'est moi.
Salut à tous les quatre. Dans ce nouvel épisode, on va parler des relations entre démocratie, autoritarisme et changement climatique. Si vous nous écoutez jusqu'au bout, vous verrez qu'il y a des chances qu'on arrive à la conclusion de renverser nous-mêmes notre gouvernement autoritaire. Mais avant ça, première question. Si vous aviez pendant une journée les pleins pouvoirs, quelle serait, hypothèse fictive, quelle serait votre première décision, Sarah ?
Moi, ce serait sur le temps de travail, donc semaine de 3 jours pour tout le monde et que la moitié de l'année, l'autre moitié, c'est les vacances. 6 mois. Sur l'équilibre, sur tout ça, je sais pas, j'ai pas réfléchi à tout.
Ça. Mais... Ouais. Le premier ministre ou la première ministre précisera.
Voilà, exactement.
C'est pas mal.
L'administration se débrouillera avec les détails techniques.
Et toi, Rémi ?
Obliger les gens à rester à droite dans les escalators quand ils ne marchent pas. Je trouve que la société ne va pas assez vite.
On est sur un ministère des petits
et
pas.
C'est un moment de ralentissement très désagréable.
Je soutiens cette mesure. Sonia, la tienne.
Moi, je me suis toujours dit que si un jour j'avais je trouvais la baguette magique pour pouvoir faire un vœu, mon vœu serait de pouvoir faire tous les vœux.
Ah, ouais.
Donc, mon premier pouvoir, c'est de faire un coup d'État et de garder le pouvoir pour toujours.
Bon. Waouh.
Okay.
Belle ambiance autour du micro.
On a dit qu'on parlait d'autoritarisme. On ne sait pas s'il est vert, mais...
on va creuser tout ça. Et toi, Philippe ?
Moi, j'ai pas de truc drôle là qui vienne. Je dirais constituante.
Ouais.
Une constituante. Auto-dissolution dans la foulée du Parlement, de mes propres pouvoirs, auto-destitution.
Bah, c'est pas mal. Alors, c'est beau.
Voilà. On n'est pas sur la même ligne.
Voilà, il y a un clivage Sonia-Philippe.
C'est l'intérêt.
Ouais. Philippe, je disais en introduction que tu étais le cofondateur de Fracas Média. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel est le projet de ce média qui est en ce moment même en train d'organiser une campagne de financement ? Donc, nous, à 20 minutes avant la fin du monde, on soutient le lancement de Fracas Média.
On a mis du flou.
Moi, j'ai vidé ce que j'avais. Hein, et toi, Philippe, est-ce que tu peux nous présenter ce projet ?
C'est un projet de magazine trimestriel consacré au combat écologique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ce sera aussi un média qui sera diffusé en ligne, en vidéo, sur Instagram, sur YouTube, si tout va bien, si on ramasse assez de caillasses pendant la campagne. Donc donnez, n'hésitez pas à donner. Et sinon, sur le projet initial, qu'est-ce que je peux dire ? On s'est rencontrés, Clément, Marine et moi, et 3 cofondateurs RIS à Socialterre, quand on y était jusqu'à l'année dernière. Et on a décidé de monter ce média de nos rêves, un peu intello, un peu militant, grassroots, un peu révolutionnaire, un peu tout, mais surtout à la hauteur des enjeux. On va essayer en tout cas. Voilà.
Bah, c'est super. Bon, en tout cas, nous, on vous lira. Et,
suivez-nous sur les réseaux sociaux, il faut le dire.
Exactement,
voilà,
tu as raison.
Précise où est-ce qu'on
Instagram, Telegram, on a une super
J'y suis abonné. Avec un petit récap tous les vendredis matin, là, c'est super.
Ouais.
Voilà, merci Rémi.
Bon, bah, on fera encore les poches. Hein. Je ne sais pas si j'ai vu tous les euros tomber là, de vos poches. On fera encore les poches pour Fracamédia. Et comme on parle aujourd'hui dans cet épisode donc, de démocratie et d'autoritarisme, peut-être pour commencer, j'aimerais qu'on s'arrête sur quelques-unes des caractéristiques à la fois politiques et géophysiques. Hein. C'est lié à la géophysique du changement climatique qui pose aussi des questions quant au pouvoir qu'on peut exercer ou pas sur ces phénomènes. Et peut-être en premier, s'arrêter d'abord sur les asymétries, les antagonismes sociaux liés au changement climatique.
Bah peut-être, oui, dire que malheureusement, car on n'aurait pas remarqué, il y a des intérêts contraires, voire opposés, qui traversent la société, qui traversent le monde et qui rendent difficile un changement total de société. Il y a des blocages.
Tu veux dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord ?
Tout le monde, oui, et il y en a qui ne sont pas contents.
Ouais.
Exactement. Non, mais ça veut dire qu'on vit quand même aujourd'hui, le changement climatique, il s'inscrit dans une matrice plus globale qui est celle d'un pillage colonial, de l'extraction des ressources. Et des êtres avec la domination des pays du Nord sur ceux du Sud, des situations de domination à l'intérieur même des pays et les avantages financiers d'une petite minorité. Hein. On l'a dit souvent quand même, il y en a pour qui l'inaction climatique c'est très rentable, qui s'en mettent plein les poches. On peut notamment penser à l'industrie des énergies fossiles.
Bah, ah ouais, moi je suis d'accord, mais résoudre des conflits, ça a toujours été un peu le but de la démocratie. Là, le problème aussi, c'est qu'en fait, il y a des conflits qui effectivement sont transnationaux. Donc, par exemple, tu l'as dit, la domination des pays du Nord et du Sud. Donc, moi, j'ai l'impression que souvent, on a tendance à cibler les 1% les plus riches, les industries fossiles, ce qui est très bien. Mais on oublie aussi qu'il y a plein de classes moyennes occidentales qui, pour l'instant, ressentent encore plus les effets du bénéfice, disons, du turbo-capitalisme consumériste que les désagréments de l'inaction climatique et qui, donc, n'ont pas vraiment encore d'incitation à soutenir des programme fort de
pourquoi tu me regardes comme ça quand
bah,
tu
voilà.
dis ça, Rémi.
Je dis ça, je regarde. Voilà. Alors, on peut même dire qu'en philosophie politique, il y a un peu cet enjeu aussi, à savoir qu'il y a un bouquin de Pierre Charbonnier, qui est un philosophe qui a travaillé sur la manière de se sont constitués nos idéaux démocratiques. Et en fait, il montre qu'au moment où on se constitue les idées de liberté, par exemple, on bénéficie, même si c'est horrible de le dire comme ça, d'une espèce de double booster, quoi. On a le booster de l'extraction coloniale, donc on va pouvoir bénéficier de la matière et de l'usage des corps qui sont là-bas. Et puis ensuite, on va avoir le booster de l'extraction accélérée des énergies fossiles. Et donc, en fait, il montre que nos conceptions de la liberté se sont un peu faites hors sol, en tout cas pour une partie d'entre elles, et ont été un peu alimentées à l'idée qu'on pouvait tout faire, tout acheter, tout consommer, sans aucun impact environnemental.
Et on peut pas.
Et on peut pas, hélas.
Ouais, moi je suis pas tout à fait évidemment d'accord avec ça, mais ouais, ce que tu pointes là, c'est l'idée qu'en fait la liberté, elle s'est construite sur le refus de la matière, sur le fait qu'on s'extrait des tâches pénibles, domestiques, de tout ce qui est pesant dans la vie, par le fait de posséder, de produire donc, et de posséder derrière, d'avoir des esclaves énergétiques, hein, dirait Janko, qui font les choses pénibles à notre place.
Janko Vici,
parce qu'on s'aime bien. Et en fait, ça c'est une conception qui est très profonde dans la modernité, hein, qui émerge avec le 18e siècle, et pour le coup là, Charbonnier il dit ça aussi, je pense, mais que du coup il faut qu'on revienne à d'autres conceptions de la liberté qui permettrait de voir aussi le pratique, le quotidien, les petites choses qu'on a peut-être considérées comme sales ou pesantes comme des sources de liberté. Et ça permettrait peut-être de voir certains sacrifices qu'il y a à faire dans un projet écologique, pas comme des renoncements, des trucs punitifs, etc., mais comme troquer une liberté assez pauvre et superficielle pour une autre plus politique, plus riche, plus sociale, etc.
Ah ben bah, écoute, je vote pour toi, Philippe. Ouais. On va voir les alliances hein, autour du micro. Sonia, alors on sait que tu avais des positions un petit peu autoritaires
non,
au début.
Non, ouais, voilà, moi, je vous le savez, je me sens plus dictatrice mondiale, quoi, enfin, oui. À l'échelle de la planète entière. Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans tout ce que vous dites, c'est qu'on voit que ça pose un problème d'échelle, d'échelle géographique, puisque dans l'ensemble, les problèmes liés aux dégradations environnementales ne sont pas contenus dans les frontières étatiques, que ce soit la hausse des températures, quand il y a une forêt qui part en fumée. D'un côté de la planète, forcément, ça va avoir un impact très, très global. Et ce problème d'échelle, on le retrouve aussi dans le temps, puisque quand on va... Les émissions carbone qu'on va émettre à un instant T, en fait, elles vont rester dans l'atmosphère très longtemps.
Et tu parlais, Sonia, des échelles géographiques temporelles. Il y a aussi celle des espaces nationaux et politiques, et une question de souveraineté. Par exemple, on parlait de la fumée des feux de forêt ou de l'Amazonie. La souveraineté aussi des groupes transnationaux, hein, dont les activités économiques, industrielles, extractives se placent dans plusieurs pays avec des incidences et des conséquences négatives dans plusieurs autres. Donc voilà, il y a cette idée de, en fait, comment on rapproche un peu les cartes des conséquences et les cartes du pouvoir là-dessus.
Oui, parce que puisqu'on parle d'autorité, admettons que le président du Brésil décide de réduire en cendres l'Amazonie, bah, qu'est-ce qu'on fait dans les autres pays ? Admettons, même si c'était des démocraties parfaites, ça poserait forcément un petit problème. Et c'est pareil pour la géo-ingénierie qui affectionne tout particulièrement.
Ouais, ouais, justement, j'allais en parler. Non, j'allais dire, effectivement, on peut même dire qu'il commence à y avoir une théorisation autour de la science des systèmes Terre qui est de dire qu'en fait, l'Anthropocène nous fait rentrer dans un régime politique très particulier, qui est qu'en fait, comme on est tout le temps au bord du désastre et du précipice à cause des points de bascule, des tipping points, comme on dit en anglais, enfin, dans un système chaotique où la situation peut très vite se retourner. Tu parlais de l'Amazonie. Effectivement, le moment où ça peut devenir une savane peut arriver assez vite. Et donc, le problème, c'est que le temps que des démocraties digèrent entre guillemets ces informations, l'Amazonie sera déjà une savane. Donc c'est la question qui est posée, c'est est-ce que, enfin, qui peut être critiquée, hein, c'est-à-dire il faudrait un régime appuyé en grande partie sur l'expertise de modélisateurs qui vont pouvoir prévoir à l'avance les signaux faibles, dire attention là on entre dans un régime d'instabilité, et puis il faudrait trouver une façon d'articuler ça avec les enjeux démocratiques, mais ça pose de nouveaux enjeux de souveraineté populaire.
En fait, moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'on pose toujours ce débat pour tailler en pièces, en gros, l'hypothèse démocratique. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, mais ça changerait rien s'il y avait une super démocratie écologique, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la globalité, ça s'appelle le monde, quoi. Mais en fait, ce serait pareil pour un super régime autoritaire.
C'est
Donc, en fait, ça résout absolument pas la question. Ouais. Donc, en fait, là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, il faudrait peut-être un gouvernement mondial. Et là, la question serait, est-ce qu'il est démocratique ou pas ? Bon, moi, ma team, c'est pas gouvernement mondial, hein, je présente. Et du coup, puis après, ça réveille des vieux débats, comme le socialisme dans un seul pays ou dans tous les pays. C'est toujours des vieux. Dès qu'il y a une volonté de rupture politique forte, il y a toujours eu ces questions de, est-ce qu'on le fait à un seul pays, à un seul endroit, est-ce que ça changera les choses ? Est-ce qu'on le fait dans le monde entier, mais comment on fait du coup ? Enfin, voilà.
Et il y a aujourd'hui des formes de remise en cause de la démocratie qui utilisent l'argument du changement climatique pour liquider ce qui est qualifié de démocratie. Alors déjà, peut-être poser le terme, hein, quand on dit démocratie, on en revient un petit peu par exemple à ce que dit le philosophe Jacques Rancière dans La haine de la démocratie. Il dit, voilà, la démocratie, je le cite, c'est l'absence de tout titre à gouverner. Alors Rancière explique qu'il y a souvent dans l'histoire deux titres à gouverner qui sont combinés ensemble, hein, la naissance et la richesse. Et les deux peuvent être évidemment liés, et ça a une conséquence très importante dans la conception que Rancière a de la démocratie. Ça veut dire que bah, vous qui nous écoutez, n'importe qui dans la rue, tout le monde en puissance peut gouverner. Et donc il dit bien, Rancière, que la démocratie, c'est pas une constitution ou un type de société, c'est pas non plus le pouvoir du peuple ou d'une classe sociale, c'est ce principe de l'absence de titre à gouverner. Et on voit bien aujourd'hui qu'on n'est pas du tout dans ce système là, parce qu'il y a une conception qui domine aujourd'hui notre rapport à la démocratie, c'est la représentation. Le fait qu'il y a certaines personnes qui représentent nos intérêts. Et Rancière l'explique bien, bah, il dit, voilà, c'est du coup, si on fait ça, c'est que le premier critère qui vient sélectionner les personnes qui exercent le pouvoir, c'est ce qu'il appelle le désir de l'exercer.
Oui, c'est vrai, parce qu'il faut en avoir envie.
Moi, t'en as envie, Sarah ?
Non, moi qui veux travailler à moins qu'un mi-temps, un ministère, ça m'intéresse pas trop. Non, mais c'est que voilà, Rancière, il va montrer qu'en fait, qu'aujourd'hui, on va vivre certes dans un état de droit, mais un état de droit oligarchique. Donc, il y a un petit nombre quand même qui gouverne. Il y a des règles qui encadrent la manière dont les décisions sont prises. Il y a quand même des élections, etc. Mais on voit qu'elles vont reconduire toujours le même type de gouvernant. Et par exemple, moi, ça me fait penser, là, récemment, il y a eu tout un article sur le patrimoine de nos ministres. Si on parle de fortune, d'argent, on voit que la grande majorité sont dans la tranche des quelques pourcents les plus riches en France.
Oui, on peut penser aussi à l'Assemblée nationale qui avait été élue en 2017, où tout le monde s'était un peu gossé du fait qu'elle était beaucoup plus diverse que les précédentes. Elle était un peu plus féminine, il me semble, mais en réalité, socialement, elle était encore plus représentative des classes de cadres, etc. Donc c'est très difficile. En tout cas, on a aujourd'hui, dans la démocratie telle qu'elle existe en France, elle n'est absolument pas réellement représentative de la population.
Et je te vois me regarder.
Oui,
juste une anecdote quand même historique. Ouais. Je rappelle juste qu'au moment de la Révolution française, le parti de la représentation, c'est celui qui a gagné finalement avec l'histoire, hein, était contre le parti des démocrates. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'était le parti de l'antidémocratie. Mmh. Voilà, juste.
Et puis même si on revient aux origines de la démocratie qui a été inventée, dit-on, par les Grecs, la démocratie, donc, qui étymologiquement veut bien dire le pouvoir du peuple, en réalité, ce peuple n'était constitué que des citoyens qui excluaient un très grand nombre de personnes, notamment les femmes, mais aussi les étrangers qui étaient appelés les métèques, etc. Donc ça c'était certes pas représentatif, mais très loin d'englober l'ensemble de la population.
Alors moi je suis d'accord avec tout ça. Le seul truc c'est que je trouve que parfois dans les débats quand on parle de ça, on a l'impression d'une espèce de bloc monolithique qui serait les institutions françaises telles qu'elles sont aujourd'hui, qui seraient forcément bourgeoises, forcément asservies au capitalisme, etc. Et c'est, enfin, comment dire, c'est objectif, de regarder le profil de Oudéa Castéra pour s'en rendre compte. Mais il y a quand même, disons, des nuances à apporter là-dedans, parce que souvent, parfois, c'est utilisé pour réduire la spécificité française ou européenne et dire, bah, en fait, c'est comme la Russie, c'est comme, voilà, c'est le peuple n'a pas le pouvoir. Ça me semble un premier problème. Et deuxième, ça empêche de penser l'histoire, quoi, de se dire, bah, en fait, on peut avoir des élections avec des gens, qui n'ont pas forcément de milieu bourgeois qui l'emportent. Ça peut arriver. Il peut y avoir des coalitions populaires. Il y a eu des ministres sous Mitterrand qui étaient tourneurs fraiseurs. Je crois que c'est le cas de Bérégovoy. Donc, c'est juste de dire, voilà, il y a aussi une possibilité de travailler de l'intérieur ces institutions et de les changer, quoi. Elles sont pas par essence antidémocratiques.
Et aujourd'hui, il y a de nombreux arguments qui sont avancés pour liquider ce qui est du fonctionnement de la vie politique en termes de liberté. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que c'est pas non plus totalement une nouveauté. Dans les années 60-70, donc quand le problème, disons, environnemental était cadré comme un problème de croissance de la population, il l'est encore pour certaines personnes, il y avait déjà des arguments qui, disons, étaient en faveur de mesures fortes de suppression de liberté, sur le contrôle des naissances, etc. Donc on voit aussi que périodiquement, cet argument en faveur de la restriction des libertés, de la liquidation de ce qu'on peut ou pas appeler une démocratie, en faveur de régimes encore plus autoritaires, est remis au goût du jour.
Oui, et puis on a tendance à penser que parce qu'aujourd'hui la démocratie n'arrive pas à résoudre les problèmes écologiques, on a tendance à penser que ce serait la démocratie le problème, alors qu'on pourrait penser le problème à l'inverse et de se dire que c'est pas la démocratie le problème, mais c'est le fait que ça ne fonctionne pas. Et parce que justement, elle est dans un état de droit oligarchique, comme le dit Rancière. Donc voir les choses à l'envers permet de re-questionner un état réellement démocratique qui permettrait de résoudre l'urgence écologique.
Mais c'est marrant parce que pour moi, la pulsion autoritaire, tu vois, elle vient du fait d'une sorte d'imaginaire que les gens n'arriveraient pas à se contrôler. Ils n'arriveraient pas à faire ce qu'il faut pour faire la bonne chose, quoi, en gros. Et donc là, on le voit arriver aujourd'hui avec effectivement la démocratie, c'est la liberté individuelle des individus qui n'arrivent pas à faire les bons choix, qui arrêtent de consommer, etc., etc. De la même manière, années 70, pareil. En fait, c'est quoi la démocratie? Enfin, tout le néo-malthusianisme, années 70, croissance des populations, etc., c'est l'acte le plus individuel possible qu'on puisse imaginer, c'est avoir un enfant. Et les gens, ils vont avoir des enfants, ils vont en avoir trop, ils peuvent pas se retenir, et du coup, il faut les limiter. C'est le pur malthusianisme. En fait, on est vraiment tributaire de cet imaginaire-là. Et du coup, ça fait que c'est les gens qui posent problème. Ce ne sont pas les systèmes que nous avons mis en place, les structures sociales, c'est les intérêts dominants dans la société. C'est pas ça, c'est les gens. Et voilà, pulsion autoritaire.
Et peut-être pour dire, par exemple, l'une des autres propositions faites pour remédier à cette démocratie qui n'arriverait pas à gérer ce problème du changement climatique, ce serait de mettre en place une technocratie éclairée.
Il n'y a pas des guillemets au mot éclairé, ça, hein?
Oui, mais je peux pas les faire à l'antenne.
Ouais,
les voit,
j'aurais bien aimé les entendre dans ta voix quand même. Hein.
Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire
une
technocratie éclairée avec des guillemets. Ce serait remettre en fait le pouvoir aux experts, aux sachants, à ceux qui vont être capables de décider de manière éclairée, contrairement à nous autres petites gens qui sommes un peu bêtes. Mais là, derrière, on peut déplier un certain nombre de limites et de questions. C'est déjà qui choisit les experts? Parce qu'il y en a plein, ils sont pas toujours d'accord entre eux.
D'autres experts.
On commence à avoir un problème. Qui tranche au final? Enfin, et ça va être, par exemple, Rancière, il va critiquer ça. Et lui, il va partir d'un postulat très fort qui est l'égalité des intelligences. Donc, qui est une pensée complètement inverse où on serait tous égaux pour, à un moment, prendre des décisions, comprendre les choses, etc. Et donc se méfier peut-être un peu de cette proposition de technocratie des experts, même si je sais que toi.
Non, c'est pas que je l'aime, c'est juste qu'on l'a un peu dit tout à l'heure, effectivement, du fait des nombreuses questions et des complexités que pose le réchauffement climatique, à savoir, on l'a dit, hein, les déconnexions entre le temps, l'espace, etc. Effectivement, il y a beaucoup cette proposition de recourir aux experts. Elle est parfois écartée d'un revers de main. Et c'est vrai qu'elle est très forte et inquiétante, parce qu'il y a un article d'une chercheuse qui s'appelle Carrie Depric qui s'appelle « De l'urgence climatique au climat d'urgence ». Donc l'idée qu'à mesure qu'on va rentrer dans des amplifications de problèmes climatiques de plus en plus forts, on va avoir tendance à se tourner vers les sachants en disant « Aidez-nous, il faut qu'on en sorte ». Évidemment, c'est un problème. Il me semble quand même que, pareil, l'expert, c'est pas monolithique. Les bifurqueurs de Paris-Tech, c'est aussi des experts. Qu'on a toujours besoin de s'appuyer sur une parole, experte et sachante. Même dans les conventions citoyennes, elles sont dites outillées, à savoir qu'il y a des gens qui viennent présenter des choses. On peut critiquer les biais que ça induit. Mais il y a quand même besoin, disons, d'une espèce de verticalité comme ça aussi du savoir qui, à un moment, vient permettre aux gens de se décider sur des critères durs, quoi.
Vous avez déjà écouté les scientifiques parler de démocratie ou de décision sociale? Ouais, c'est une catastrophe. Enfin, faut le dire, et ils le savent en fait. Donc moi, il y a vraiment une confusion entre décision et gouvernement en fait. Il y a des choses, et on confond les deux depuis longtemps, et dans le régime libéral, elles sont confondues. Je rappelle que la Grèce antique, alors oui, les métèques étaient par exemple esclaves de la décision, hein, c'était pas le démos. Par contre, c'était souvent eux les gouvernants, c'est-à-dire les ministres, c'était souvent des esclaves qui avaient la charge de conseiller et de appliquer les décisions. Donc en fait, on confond des choses, et on pourrait très bien avoir un avis éclairé d'experts, voir des experts actant sur des mesures, etc., il n'y a aucun problème, mais dont l'action est fondée sur une décision démocratique, par d'autres pratiques démocratiques, que celle de la pure représentation qui, en gros, donne voix aux intérêts bourgeois de la société. Donc voilà, ça ne remet pas forcément en question du tout ça.
Ouais, d'accord. Moi, c'est juste l'imaginaire, effectivement, de la décision collective, un peu façon Occupy, où il n'y a aucune verticalité qui s'installe. Moi, je trouve que ça ne marche pas. Dans la Convention citoyenne, c'est un peu ce que tu dis. Hein. C'est effectivement, c'est des gens tirés au sort qui vont ensuite discuter longuement. On leur apporte une parole en leur montrant les limites et les biais de cette parole aussi, en leur montrant, voilà, c'est fondé sur telles hypothèses, etc. Donc c'est ça qui doit s'en emparer. C'est juste l'espèce de rejet a priori de tout ce qui va être une parole, chiffrée avec des perspectives, des programmes, etc. C'est ça qui parfois je trouve un peu limité.
On peut peut-être citer l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat qui a quand même été un exemple assez équilibré de tout ça, puisque c'est des citoyens tirés au sort qui ont réfléchi pendant des semaines ou des mois, je ne sais plus, aux solutions qui pourraient être mises en place pour faire face à l'urgence climatique, et ils n'ont pas réfléchi tout seuls dans leur coin face à Google. Il y avait quand même des entretiens, des échanges avec des experts, des chercheurs de tout genre, et malgré tout, alors j'allais dire la décision en revenait aux citoyens, c'est pas vrai puisque ils ont émis des préconisations qui n'ont pas été appliquées, mais en tout cas dans l'idée, on a des citoyens qui actent, qui prennent la décision, qui prennent les orientations, quand bien même ils ne sont pas experts, tout en s'appuyant sur le savoir technique.
Oui, Daniel Fiorino, qui a écrit un livre un peu sur ces questions de démocratie et d'autoritarisme, lui avance un certain nombre d'arguments en disant en fait pourquoi un pouvoir autoritaire ne fonctionnerait pas et quel piège ça représenterait. Et il avance un argument qui est un peu celui de la rigidité. Il dit en fait les régimes autoritaires sont beaucoup trop rigides, fermés pour répondre à toutes les conséquences du changement climatique, dont beaucoup ne sont pas du tout anticipables. Et dans son argument, c'est de dire que la démocratie a une souplesse qui lui permet de répondre, de s'adapter à des conséquences imprévues. Et le deuxième argument, c'est de dire que tout ça va avoir lieu pendant très longtemps, les conséquences du changement climatique. Et donc, la question, c'est si on suspend pour un temps les libertés et le fonctionnement politique ordinaire, pour combien de temps ? Est-ce qu'il n'y a pas un effet cliqué ? Une fois qu'on a fait encore descendre plus bas le curseur des libertés individuelles et de la capacité collective à s'organiser, est-ce qu'en fait, comment on sort de ça ?
Moi, ce que je trouve intéressant, surtout dans le premier argument que tu viens de donner, c'est que c'est l'exact contraire de ce qu'a dit Rémi au départ, où il disait on peut imaginer que, d'une certaine manière, l'autoritarisme ou la dictature pourra avoir une capacité d'action plus rapide. Et là, dans cet argument, c'est le contraire. Ce serait la démocratie qui aurait une capacité au moins de réaction plus rapide. Et si on déplie cet argument et qu'on se demande pourquoi, c'est qu'en fait, au sein de la démocratie, il y a des instances critiques qui sont là pour, justement, que ce soit les syndicats, la manifestation, le journalisme, enfin, tout un tas de choses qui vont pouvoir critiquer au sein les décisions qui sont prises et revenir sur potentiellement des décisions.
Moi, juste que j'entends, la nuance, plutôt que dans la rapidité, c'est dans la souplesse de la démocratie que n'aura pas le régime autoritaire, qui, lui, justement, aura peut-être une décision plus rapide, plus tranchée. Voilà.
Alors, on va entendre quelqu'un qui n'est pas invité autour de ce micro. Et
dommage.
Voilà. Et on est bien content de ne pas l'entendre. Petit extrait sonore quand même pour vous montrer la prétention avec laquelle des gens qui ne connaissent rien parlent de tout ça. Extrait sonore pour écouter Pascal Bruckner nous parler des liens entre, on va dire, autoritarisme et écologie.
Premier grand écologiste, ça a été un certain Adolf Hitler qui a fait en 1936 une loi de protection de la forêt. Je crois que je me souviens plus du nom allemand exactement. Les forêts étaient interdites aux Juifs et aux Tziganes, être inférieurs, mais il fallait protéger le Wald, c'est-à-dire le cœur même de la nation germanique, de toute espèce d'invasion, et surtout protéger la faune sauvage. Donc, originellement, l'antispécisme a des origines qui ne sont pas tout à fait de gauche.
Ah bon? Non, non, alors d'abord, Hitler, je crois, était pas totalement végétarien. Je crois que sa gouvernante disait qu'il mangeait du pigeon rôti, il me semble. Faut quand même le préciser. Bon. Non, en fait, ce qui est, bon, là, effectivement, il dit un peu n'importe quoi. On pourrait revenir sur sur ses arguments. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'il laisse entendre, enfin, l'argument sous-jacent, c'est de dire que c'est l'écologie qui est punitive, qui est autoritaire et qui va venir priver les libertés et ça, enfin, contraindre les libertés. Ça revient un peu à notre discussion de départ sur les conceptions de la liberté, etc. Mais c'est un argument qu'on revient souvent. Bon, là, on a parlé de Pascal Bruckner. Il y a eu Luc Ferry aussi qui avait fait un grand livre anti-écologiste pour dire que c'était que de la graine d'autoritariste, tout ça. Donc là, c'est l'inversion. C'est de dire qu'en fait, c'est l'écologie qui est le ferment de l'autoritarisme.
Oui, cette, dans le nazisme, cette mobilisation de l'environnement au service de projets de destruction de tous ordres se retrouve aussi dans d'autres régimes autoritaires. Et le collectif Zetkin donc, a publié un livre sur le fascisme fossile aux éditions La Fabrique et est revenu dessus avec un argument intéressant en disant bah, voilà, en fait, il y a dans le fascisme une alliance avec les classes dominantes. Et évidemment, à ce moment-là, ça ne va pas remettre en cause les forces productives, ce qui est au cœur de ce qui va détruire les êtres, leurs relations et leur milieu, etc. Et donc il y a ce piège-là à ce moment-là.
Et c'est à peu près le même fonctionnement pour le Rassemblement National aujourd'hui, hein, qui prétend défendre une certaine écologie. C'est difficile d'employer ces termes-là, mais en tout cas c'est leur conception, mais qui en réalité sont totalement alliés aux forces productives.
Et donc, il y a deux, trois autres chemins qu'on peut quand même explorer pour poser les liens entre de la démocratie et autoritarisme à la lumière du changement climatique. Il s'agirait d'amender ce qui existe, de compléter peut-être ce qui existe également, et aussi de radicaliser cette démocratie. Peut-être s'arrêter d'abord sur le premier, amender ce qui existe.
Ouais, on voit, hein, ça n'existait pas forcément avant, mais de plus en plus, des dispositifs de participation citoyenne qui fleurissent de partout, dans tous les sens. Depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, il y a des côtés positifs. Hein. Le but, c'est essayer d'associer le citoyen à la discussion, à la recherche de solutions et pourquoi pas à la décision finale. Mais il y a quand même un certain nombre de critiques à apporter, notamment la chercheuse Alice Mazo, qui a beaucoup travaillé sur cette question. Déjà, elle juge qu'on est saturé aujourd'hui de ce genre de dispositif, avec presque une obligation d'en mettre en place. Elle parle d'impératif participatif, notamment sur les politiques en lien avec l'environnement. Et puis aussi, ce qu'elle dit et ce que j'ai pu voir pour avoir travaillé dans ce milieu, c'est que c'est un marché qui s'est très fortement professionnalisé. C'est un marché, donc il y a des gens qui sont là aussi pour vendre des dispositifs. Il y a plein de cabinets de conseil, d'agences de concertation qui vendent des dispositifs de participation ou des sites internet où on va pouvoir échanger, etc. Il y a un vrai marché du conseil qui vend et avec une logique de vendre et puis pas toujours finalement si démocratique que ça derrière. Et puis surtout, elle va dire quelque chose, elle va dire que sa conclusion, c'est que la neutralisation des effets décisionnels de ces processus participatifs et donc leur verrouillage a été une condition de leur succès. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que certes, on discute un peu avec les gens, on écoute un peu ce qu'ils ont à dire, mais au final, la décision, elle revient quand même toujours au même, à l'élu, etc. En fait, et on l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, où il y a eu plutôt des propositions assez ambitieuses, mais au final, il a été décidé par le président de la République de ne pas reprendre toutes ces propositions, ce qui était d'autant plus problématique que ce n'était pas la promesse du départ de cette Convention citoyenne où tout devait être pris sans filtre, a priori.
Oui, il y a d'autres voies qui existent, hein, qui consistent à imaginer comment compléter le fonctionnement de la vie politique. Alors, on ne peut pas s'arrêter en détail sur chacune de ces propositions, mais il y en a quelques-unes, Sonia.
On parlait des problématiques de représentation. Aujourd'hui, aussi imparfaites soient-elles, donc elles cherchent à représenter uniquement les humains. Et donc, il y a d'autres voies imaginées pour représenter aussi les non-humains. Donc, c'est par exemple exploré avec Bruno Latour, avec un parlement des choses qui associerait, qui représenterait des entités non-humaines. Je ne sais pas, par exemple, un fleuve ou des tribus autochtones.
Ouais, et alors tu disais les humains, et c'est les humains du présent, parce que il y a la démocratie des morts, comme disait Maurras. Ouh là là, c'était Maurras, c'est horrible. C'est la tradition. Mais la démocratie des à venir n'existait pas vraiment. Donc, par exemple, des propositions de créer des chambres du futur. Donc, c'est, je pense en parlement, en particulier à Dominique Bourg et Kerry Whiteside, qui ont proposé une chambre parlementaire du futur pour essayer de, voilà, de refaire matcher le temps long, enfin le temps du futur avec le temps d'aujourd'hui.
Que des propositions qui évitent de poser la question de la place du citoyen quand même dans tout ça, hein, mais bon. Moi c'est le tirage au sort quand même qui est la grande absence généralement de ces initiatives là et qui m'intéresse, puisqu'encore une fois, point d'histoire, le tirage au sort c'est la démocratie initialement, la démocratie grecque en tout cas, et pas que grecque, elle s'est perpétuée ensuite à couronne d'Aragon au Moyen-Âge, enfin il y a énormément de, toute une histoire qu'on pourrait faire du tirage au sort, dont les reliquats sont encore trouvables aujourd'hui dans les jurys d'assises, qui était une forme de gouvernement par tirage au sort. Voilà, donc moi je pense que ce qui est assez marrant, c'est que généralement dans ces initiatives-là, si on voit que des élus, des représentants et des sachants, c'est quand même qu'il y a un souci quelque part. Alors bon, après je fais pas le procès complet parce que j'ai pas bien suivi par exemple ce que proposait Dominique Bourg sur le Parlement du futur, mais tu me diras peut-être plus, Rémi.
Peut-être que sur le Parlement du futur, juste dire un petit mot, parce que je crois qu'on l'a pas beaucoup dit aussi sur les tensions aussi, c'est que sur la démocratie, c'est entre démocratie, changement climatique, etc. C'est que le changement climatique, il y a quelque chose qui s'inscrit dans le temps très long et dans les décisions aussi qui vont avoir des conséquences dans le temps très long, et aujourd'hui notre démocratie elle est soumise à un temps court qui est celui des élections, et donc entre les
celui
deux
celui du tweet peut... en fait, même plus les élections,
oui, et presque celui du tweet, et donc là on a vraiment on a un problème de temporalité qui sont dissonantes en fait.
Oui, Rémi, toi, tu voudrais nous attirer notre attention sur le fait de penser un petit peu les tensions entre...
Ouais, en fait, en préparant cet épisode, je me suis dit, bon, c'est quoi les propositions, on peut critiquer, c'est quoi les propositions qui sont en face? Donc, dans ma tête, j'avais le biorégionaliste, les communs, le communalisme, j'avais toute une liste comme ça, et je me suis dit, en fait, ça tombe un peu sous deux grandes formes, disons. Il y a une forme qui passe par l'État, donc ça va être, je sais pas, le ruffinisme, la planification
alors,
écologique...
Ruffinisme en lien avec François Ruffin.
Avec François Ruffin, le voilà. Green New Deal, la mobilisation des masses, etc. Il y a une veine qui passe moins par l'État, qui passe veine pour, plus même par une veine d'inspiration anarchiste, hein. Donc les biorégions, éventuellement le changement de rapport ontologique aux choses, on a parlé tout à l'heure avec la personnalisation juridique des fleuves ou des éléments naturels, les ZAD, etc.
Je rappelle juste que les biorégions, hein, c'est l'idée d'organiser les territoires non plus sur la base de découpage,
mais sur les bassins versants, ouais,
voilà,
c'est ça.
Mais sur en fonction de leurs contours naturels, fleuves, espèces animales, etc.
Voilà, donc je vous dis, il y avait un peu deux grandes veines comme ça qui se partageaient le champ écologique avec des tensions entre les deux. Voilà, je vous livre à cette proposition.
Bah, en fait, il y a des inspirations massives dans la tradition écologique, c'est l'écosocialisme et le municipalisme libertaire de Murray Bookchin. Mais oui, tu as raison de découper ça en deux versants. Après, la position d'un écosocialiste comme Gorz était quand même vraiment beaucoup plus radicalement révolutionnaire ou réformiste révolutionnaire que ce qu'on entend aujourd'hui chez Ruffin, par exemple, qui s'accommode beaucoup plus de, et qui est obligé, hein, je pense, hein, de l'état politique des choses aujourd'hui. Mais après, sur le tirage au sort, était défendu par exemple par Bookchin, effectivement, dans la question de faire des. En gros, c'est les fédérations de fédérations, hein. C'est toujours
c'est
pareil.
C'est Proudhon, ouais.
Ouais, c'est des villes qui s'auto-organisent, alors des bassins versants dans le régionalisme, par exemple, qui est une extension un peu nouvelle de ça. Et ensuite, on s'allie au niveau national en faisant des fédérations de ces villes, etc. Enfin, c'est des structures comme ça.
Et donc, effectivement, le tirage au sort fait partie d'une manière, comme le dit Rancière, bah, de mettre fin à la puissance des bien-nés, la puissance des propriétaires, comme il le dit. Il y a une phrase que j'aime bien dans son livre « La haine de la démocratie » où il dit bah, « voilà, il n'y a pas de gouvernement juste, s'empare du hasard. » C'est-à-dire s'empare de ce qui contredit l'identification de l'exercice du gouvernement à celui d'un pouvoir désiré et conquis. Donc, ce qui est intéressant dans le tirage au sort, c'est quand même de mettre fin à cette idée que le pouvoir, la représentation doit être entre les mains des personnes qui désirent ce pouvoir. Il y a une redistribution des cartes là-dessus.
Ouais, c'est pas une compétence, ça c'est depuis les Grecs. Mais vraiment, moi j'insiste sur ça, sur la convention pour le climat citoyenne, hein, qui était quand même hyper intéressante. Et notamment, il y a une émission sur Arrêt sur Image où ils reviennent sur plateau avec des membres de la convention, la CCC. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit à quel point c'est une pratique. C'est pas une opinion. On n'a pas tiré au sort 50 personnes et on met dans une salle, on leur donne 2-3 documents et ils disent ce qu'ils en pensent. Ça prend c'était ouais, 8 week-ends ou 10 week-ends,
ouais.
Je sais plus.
Je crois que c'était, ouais, c'était
travailler avec des sessions entre les week-ends, etc. Hyper long, processus de pratique, de discussion permanente, d'audition libre, c'est-à-dire qu'ils choisissaient qui vous auditez peu à peu, etc. Et à la fin, ça produit des décisions où il y a des gens qui expliquent comment ils sont passés du climato-scepticisme à l'avant-garde de l'écologie, presque, je caricature, sur plateau. Et ils expliquent vraiment comment ça leur est arrivé, en fait. Et c'est pas, ils n'ont pas été matrixés, comme a dit l'opposition de droite, par les organisateurs de la CCC. Ils ont vraiment une pratique démocratique qui leur a fait comprendre les choses, sur ce point de puissance démocratique, etc. Et c'est hyper intéressant.
Ouais, c'est pas tiré au sort et maintenant décidé. C'est effectivement, comme tu dis, une pratique et un travail, Rémi.
Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Il y a juste deux écueils, parce que j'ai été pas mal à la Convention citoyenne. On voit quand même assez vite les travers humains se reconstituer, quoi. Savoir qu'il y a les gens qui parlent bien, les grandes gueules, les machins, les hommes plus que les femmes, etc. Donc, alors, il y a plein de procédures pour essayer de casser ça un peu, hein, dans tout l'ingénierie du truc. Mais donc, il y a ce premier travers. Et le deuxième travers qui disait aussi, c'est, bah ouais, mais nous, on a fait, effectivement, 8 week-ends de discussion et de délibération et de cogitation. On a des propositions, mais comment vous faites pour que les 60 millions de Français derrière les acceptent? Là, on va voir avec la rénovation thermique des bâtiments, les propositions hyper fortes de la démo de la Convention citoyenne vont commencer à arriver concrètement là, pour les gens, pour les locations. Bah, comment on va pas avoir le même mouvement que pour les agriculteurs? C'est pas évident, quoi, parce qu'en fait, on vit dans des mondes imparfaits et tout le monde n'a pas pu faire la même chose que la Convention citoyenne pour le climat.
Travail.
Et parvenu à la fin de cet épisode, j'ai le regret de vous annoncer l'autodissolution, évidemment, de notre gouvernement autoritaire, puisque ce n'est pas l'écologie que nous prônons, même s'il y a bien sûr des nuances et des sensibilités différentes autour du micro. En tout cas, ce n'est pas celle qui vise à liquider le peu qu'il y a de liberté pour prétendre répondre à tout ça. Et l'autre chose importante, c'est, vous qui nous écoutez, de ne pas hésiter à aller voir de plus près Fracamédia, le boulot de toute son équipe et de les soutenir parce que c'est le bon moment pour le faire. Sarah, je vois qu'il y a un billet qui dépasse de ta poche, donc tu vas le mettre au pot commun. Je crois qu'il est temps. Philippe, merci d'être venu avec nous pour cet épisode.
Merci de m'avoir invité.
Et puis, à la prochaine, à dans deux semaines.
On se retrouve bientôt.
À bientôt.
À bientôt.